Grand angle.
Grand angle sur Radio Orient. Le 7 août dernier, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie ont signé un accord de défense qui remet en cause les équilibres au Moyen-Orient. Selon ce pacte, qui témoigne de l'influence déclinante des États-Unis dans la région, une attaque armée extérieure contre l'un des trois signataires sera considérée comme une agression contre tous. Pour en parler, notre invité est Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste de la Turquie. Bonjour Monsieur Billon.
Bonjour.
Avant tout, pourriez-vous nous dire ce que contient cet accord de défense ?
On n'a pas les éléments complets du contenu de l'accord en question, mais je pense que l'élément principal, et vous l'avez évoqué rapidement dans votre introduction, c'est le fait que, s'inspirant un peu du dispositif de l'OTAN, l'accord entre les trois États dispose qu'une attaque armée extérieure contre l'un des trois États vaudrait immédiatement une riposte commune de ses partenaires. Donc il y a une sorte de pacte assez important. Pour autant, c'est ce qui est écrit, ça on le sait. Comment ça pourrait-il se décliner, ça reste encore très sujet à caution et à interprétation, et se pose d'ailleurs un problème quasi immédiat. Nous savons qu'il y a régulièrement des bombardements ou des attaques de drones iraniens contre le sol saoudien. Est-ce qu'alors cela voudrait dire que le Pakistan et la Turquie ripostent contre l'Iran ? C'est très peu probable parce que nous connaissons l'étroitesse des relations entre le Pakistan et l'Iran d'une part, et d'autre part, on ne voit pas la Turquie engager des opérations militaires contre l'Iran. Donc, à la fois, le contenu de cet accord recèle une grande importance politique et symbolique par le fait que si l'un des trois États est agressé, les autres l'aideront à riposter, mais pour autant, dans la réalité des faits, cela va nécessiter nombre de débats et d'interprétations qui vont se développer dans les jours ou les semaines à venir.
Et le président turc Recep Tayyip Erdogan va se rendre vendredi en Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman et le premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif. Pourquoi, selon vous, ces trois pays ont décidé de signer un pacte de défense ?
Tout d'abord, le processus de rapprochement entre ces trois États et la coopération qui existe n'est pas d'hier ou de la signature de ce pacte. Nous nous rappelons par exemple que le Pakistan et l'Arabie Saoudite avaient déjà signé un accord de coopération militaire de défense mutuelle au mois de septembre 2025, donc il y a presque un an. Nous nous rappelons que la coopération militaire, notamment dans les domaines de l'aviation militaire et dans le domaine du naval militaire entre la Turquie et le Pakistan existe depuis plusieurs décennies, car il y a une forte proximité entre Islamabad et Ankara. Nous savons aussi que la relation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite s'est considérablement réchauffée au cours des dernières années, avec notamment des accords de livraison de drones turcs à l'Arabie Saoudite. Donc il y a un processus qui est engagé, mais qui prenait jusqu'alors plutôt une forme bilatérale entre chacun de ces États. La nouveauté, c'est que là, ils sont trois. Et évidemment, ça change totalement la donne. Alors il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale d'entre elles, qui est insuffisamment soulignée à mon avis, c'est le fait que ces trois États, pour des raisons différentes bien sûr, mais conjointes, considèrent que la principale force déstabilisatrice aujourd'hui dans la région, c'est l'État d'Israël. Et donc il s'agit pour ces trois États de se donner les moyens pour tenter de contenir la politique annexionniste et expansionniste israélienne. Je pense que ça, c'est l'élément principal. Le deuxième élément, il est aussi très important. Moi, c'est ce que j'appelle la désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire que les puissances du Sud, et le Pakistan, l'Arabie Saoudite et la Turquie en sont trois beaux exemples, ne veulent plus désormais être le petit doigt sur la couture du pantalon devant les exigences des États occidentaux et notamment des États-Unis. Or, dans la conjoncture actuelle, ce processus a été accéléré par la guerre d'agression qui a été menée par les États-Unis et par Israël contre l'Iran depuis le 28 février dernier, et qui a montré une chose, notamment aux yeux des Saoudiens, mais qui a valeur d'exemple pour les autres États pakistanais et turcs, c'est le fait que désormais, les États-Unis ne sont plus en situation, ne sont plus capables d'apporter de véritables garanties de sécurité. Donc ces trois États considèrent, sans rompre pour autant leur lien avec Washington, je le souligne, considèrent qu'il s'agit de ne plus mettre, si vous me passez l'expression, tous leurs œufs dans le même panier et de ne pas être totalement dépendants des États-Unis en prenant leur indépendance et en scellant des accords de partenariat entre eux. Et là, cet accord en est un parfait exemple. Donc vous voyez, il y a plusieurs éléments qui se conjuguent. Incontestablement, un processus a été engagé depuis de nombreuses années, mais a clairement été accéléré à la fois par le 7 octobre 2023 et la guerre génocidaire qui en est suivie, et d'autre part, par le 28 février, cette agression israélo-états-unienne contre l'Iran. Donc les planètes se sont alignées pour peut-être accélérer un processus qui était déjà à l'œuvre.
Alors vous l'avez dit, les ambitions israéliennes sont contrariées par cet accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup d'arrêt aux accords d'Abraham lancés en 2020 sous l'égide de Washington ? Ils avaient pour objectif une normalisation régionale avec l'État hébreu, et notamment entre Israël et l'Arabie saoudite.
Oui, je pense que c'est un coup d'arrêt. Je ne sais pas s'il sera définitif. En tout cas, personnellement, je le souhaite. Mais rappelons-nous, et vous avez parfaitement raison de le souligner, que quelques semaines avant le 7 octobre 2023, il y a eu, je me souviens, un entretien de Mohammed Ben Salman à la chaîne Fox News aux États-Unis, où Mohammed Ben Salman expliquait que des pourparlers très importants avaient lieu avec Israël et allaient bientôt donner des résultats très positifs. Bon, à mot couvert, il indiquait que probablement l'Arabie saoudite allait se rallier à ces fameux accords d'Abraham. Et puis le 7 octobre arrive comme un coup de tonnerre, et évidemment tout cela vole en éclats, puisque depuis lors nous savons parfaitement que les Saoudiens se refusent à adhérer ou à signer ces accords d'Abraham tant qu'un État palestinien ne sera pas reconnu et ne pourra s'ériger. Donc clairement, le projet sous égide états-unienne, le projet de leadership ou d'hégémonie régionale de la part des Israéliens n'est pas viable et ne sera pas possible. Alors, je ne veux pas sous-estimer la dangerosité de la politique israélienne actuellement. Malheureusement, l'histoire n'est pas terminée et donc on peut s'attendre que cette politique agressive, annexionniste de la part du gouvernement israélien ne se poursuive. Mais il est clair que cet accord réduit considérablement la marge de manœuvre israélienne et il est intéressant de constater que cet accord se produit aussi à un moment où nous pouvons constater des irritants entre les États-Unis et Israël, notamment dans l'application du plan sur Gaza concocté par l'administration Trump. Et nous avons vu hier que Netanyahou refusait ce plan. Donc il y a quand même des divergences qui existent. Quand je dis ça, je ne me fais pas d'illusions. Le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël se poursuivra. Ça, c'est un élément très important, bien sûr. Mais pour autant, cela ne doit pas nous entraîner à sous-estimer les différenciations qui existent entre Tel Aviv, d'une part, et Washington, de l'autre. Donc on est dans une situation très volatile, où tout cela est très mouvant, n'est pas inscrit définitivement dans les faits, bien évidemment. Et je crois que Donald Trump, ou tout du moins les responsables politiques qui l'entourent, qui j'espère ont une réflexion à plus longue portée que leur président, qui, on le sait, ne régit que par à-coup, que par impulsion, ce qui n'est jamais très bon en matière de diplomatie et de stratégie. En tout cas, dans son entourage et dans les cercles qui décident de la politique stratégique des États-Unis, il est évident que l'accord signé entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie sera mûrement analysé, mûrement réfléchi, et qu'il montrera que la politique des États-Unis, qui pendant tout un temps a soutenu totalement, inconditionnellement l'État d'Israël, mériterait peut-être d'être revue, parce qu'on se souvient, pour terminer, que l'Arabie saoudite, Mais comme la Turquie, comme le Pakistan, qui sont des partenaires solides des États-Unis, si ces pays commencent à prendre leur autonomie, alors ça ne se fera pas en un jour ni en six mois, ça va prendre évidemment beaucoup plus de temps, mais c'est un sacré coup de semonce contre la politique des États-Unis, et donc, je pense qu'il y aura probablement des inflexions de la part des États-Unis dans la politique au Moyen-Orient.
Merci beaucoup Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste de la Turquie. À noter tout de même que les contours du pacte de défense de la Mecque restent encore à préciser.
C'était Grand Angle.